Mais la première chose qui me frappe, c'est la langue. On parle pas allemand. Enfin, il y a des mots allemands, je les reconnais, vestiges lointains de mes 18 ans. Mais il y a plein d'autres langues. Il y en a même que je comprends pas. Ça pourrait être un genre de charabia. Vous savez que ça veut dire auvergnat, charabia. Certains disent que ça vient de l'espagnol ou de l'arabe, d'autres de l'occident. Mais c'est surtout le surnom, pas forcément très valorisant, qu'on donnait aux émigrants d'Auvergne par métonymie. Ça désigne leur patois. Et c'est vrai que ça évoque en auvergnat à la fois la causerie, le bégaiement, la poignée de main aussi. Mais ça veut dire incorrect, charabia, incorrect, hétéroclite, impur. Et c'est peut-être la plus belle façon de désigner une langue. Parce que si on est un peu honnête, on sait tous que la beauté du charabia, c'est qu'on en comprend toujours assez, en fait. Dire qu'on n'a rien pigé, c'est faire preuve de mauvaise foi, c'est céder à la facilité ou à la paresse de ne pas s'ouvrir à l'inconnu, de ne pas faire l'effort de l'étranger. Et c'est précisément l'expérience que je suis en train de vivre dans ce théâtre de Berlin, où sur le papier, je ne comprends rien, mais où on a l'élégance de me glisser des mots en français et où je dois tendre deux fois l'oreille, voire trois, l'expérience du charabia qui a quelque chose à voir avec le fait d'être auvergnat. Moi, je vais vous dire, rarement je me suis senti autant chez moi.
Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang à l'heure européenne. Mon invité est sans conteste l'un de nos plus grands metteurs en scène en Europe. Il est allemand, son théâtre se joue dans le monde entier. Il nous reçoit ce matin dans les coulisses de la Schaubühne, ce grand théâtre berlinois qu'il dirige depuis 20 ans. Bonjour Thomas Ostermayer.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est à Berlin. Qu'est-ce que cette ville raconte de l'Europe pour vous?
Aujourd'hui, Berlin, c'est une ville internationale. La réalité dans le métro, dans certains quartiers, est une réalité complètement internationale. Et sûrement, après la grande vague de réfugiés en 2015, les questions de l'intégration, les questions avec notre communauté turque, c'est une question qui n'est pas forcément européen dans le sens que ça concerne la communauté européenne. Les Turcs, ce sont des Européens, des Orientales, mais aussi des Européens. Mais il y a cette grande problème qu'ils font pas partie de la communauté européenne. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la communauté européenne ou est-ce qu'on parle d'une vision de l'Europe beaucoup plus grand? Alors, un grand catalogue de plusieurs questions.
Ce qu'elle nous raconte, cette ville, en tout cas immédiatement, c'est l'histoire d'une Europe déchirée par la Seconde Guerre mondiale, puis fracturée par un mur. Qu'est-ce qu'il vous évoque ce mot « mur », vous, Thomas ?
Le mot « mur », si vous voulez, c'est pour moi, c'est le résultat d'une guerre allemande. C'est le résultat de plus grands crimes dans le XXe siècle.
Quand est-ce que vous avez compris, Thomas Ostermayer, que vous étiez né dans un pays coupé en deux?
Assez tôt, parce que mon père était militaire et parce qu'il était d'un certain niveau dans l'armée, il était interdit de voyager dans le bloc de l'Est. Alors, pendant toute mon enfance, on ne pouvait pas aller en RDA, on ne pouvait pas aller en ex-Yougoslavie, à Budapest ou n'importe où, parce que il y avait la peur qu'il prend la famille et que mon père est obligé de dire des secrets militaires.
Vous connaissiez Berlin à l'époque, vous?
Oui, je suis arrivé à Berlin en 1988, alors juste un an avant la chute du mur.
Et à quoi ressemblait la ville avant la chute du mur?
C'était à la fois un paradis pour les anarchistes, un paradis pour les pacifistes, parce que quand on a vécu en Allemagne, on était forcé de faire son service militaire, sauf à Berlin. Alors tous les gens qui voulaient pas faire leur service militaire sont arrivés à Berlin.
Les images qui vous viennent immédiatement à l'esprit de ce Berlin d'avant la chute.
C'est le SO36, alors une boîte avec musique punk. Beaucoup de hardcore, des maisons squattées, mais toujours dans l'ombre du mur. Alors toujours l'ambivalence entre une grande liberté dans une prison.
Et vous vous souvenez, Thomas Ostermayer, de ce que vous avez ressenti lorsque le mur est tombé, ce mur dont on célébrera le 9 novembre prochain, le 30e anniversaire de la chute?
Ouais. À l'époque, moi, j'étais très engagé dans des partis de l'extrême gauche militante, mais pas du tout staliniste. Alors, c'était assez ambivalent parce que on a suivi les manifestations à Leipzig tous les lundis. On n'a pas du tout cru que de l'un jour à l'autre, le mur peut tomber. Le moment où le mur est tombé, pour nous, c'était un grand triomphe. Et tout de suite après la chute du mur, on est allé en Allemagne de l'Est avec des livres de Bakounine, Trotsky, Boukharine, alors des anarchistes, des trotskistes qui étaient interdits dans l'Allemagne de l'Est parce qu'il y avait un grand catalogue des penseurs, philosophes, radicaux de l'extrême gauche qui étaient interdits en Allemagne de l'Est.
Alors c'était une ville où il fallait tout réinventer en fin de compte.
C'était une ville pendant 10 ans avec une liberté incroyable. Il y avait, après la chute du mur, en 1990, il y avait 110 maisons squattées dans un seul quartier. C'était une sorte d'utopie.
À l'époque, Thomas, vous aviez 21 ans. Dans quelle Europe est-ce que vous aviez l'impression de vivre? Je vous pose la question parce qu'à vous entendre et ce matin également, j'ai l'impression que vous vous sentez bien plus européen qu'allemand.
Oui, ça c'est vrai, mais je me sens encore plus internationaliste que européen.
Pourquoi?
Parce que j'ai un peu marre de cette idée d'une Europe qui devient une forteresse, qui accueille plus des gens de l'Afrique, des Syriens. À la fin de toute cette utopie, il faut une idée d'un monde égal pour tout le monde. Les droits des hommes en Europe, bien évidemment, oui, mais partout dans le monde.
C'est intéressant pour autant d'être avec vous ici en Allemagne, l'Allemagne dont on entend souvent dire qu'elle dicte sa loi aux autres pays européens. En quoi pour vous l'Europe d'aujourd'hui, que vous critiquez, serait-elle trop allemande?
Dans l'efficacité, dans le focus sur l'économie, pour moi l'Europe c'est plutôt un terrain partagé avec différents langages, avec beaucoup de différents, très très différentes cultures. Et je veux bien que toutes les cultures dans leur région, les régionalités existent et sont renforcées et pas une sorte de commonization dans le sens que à la fin c'est une sorte des États-Unis. Je crois qu'il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis et encore plus important la question sociale qui est pas vraiment traitée dans tous les traités européens.
C'est ce projet-là que devrait porter l'Allemagne?
Bien évidemment, parce que pour l'instant, dans tous les autres pays européens, l'Allemagne, c'est le pays de l'austérité, des certaines lois du travail qui sont dures, qui sont néolibérales. Et bien évidemment, l'Allemagne et la France et tous les pays européens devraient mettre en question tout ça.
Vous n'êtes pas né à Berlin, Thomas Ostermayer, et on dit souvent que Berlin, effectivement, c'est une ville très à part en Allemagne. Vous avez grandi tour à tour en Basse-Saxe et en Bavière. Diriez-vous que Berlin est plus europhile que l'Allemagne?
Non, je dirais pas. Je dirais que Berlin est beaucoup plus ouvert. Espérons moins raciste, peut-être un peu moins misogyne que le reste de l'Allemagne, mais c'est possible que je me trompe.
D'où il vous vient cet esprit de contestation qui vire parfois à l'amertume, Thomas, vis-à-vis de votre pays?
Parce que j'aime pas du tout cette côté de se considérer une nation. Je crois qu'une nation, ça n'existe pas. Une nation, c'est une invention d'une certaine époque historique. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est abstrait.
C'est un texte extrait de Mort à Venise, de l'allemand Thomas Mann, que j'aimerais partager avec vous. En l'occurrence, un texte qui vous est cher, puisque vous l'avez mis en scène il y a 7 ans pour le Théâtre National de Bretagne et qui propose une vision crépusculaire de l'Europe. Mais tandis que l'Europe tremblait de voir le mal faire son entrée par cette porte, c'est avec des marchands syriens, venus d'au-delà des mers qu'il avait pénétrés, faisant son apparition simultanément dans plusieurs ports de la Méditerranée, Sa présence s'était révélée à Toulon, à Malaga. On l'avait plusieurs fois deviné à Palerme. Et il semblait que la Calabre et la Pulie fussent définitivement infectées. Seul le nord de la péninsule avait été préservé. Cependant, cette année-là, on était à la mi-mai. En un seul jour, les terribles vibrions furent découverts dans les cadavres vidés et noircis d'un batelier et d'une marchande des quatre saisons. On dissimula les deux cas. Mais la semaine suivante, il y en eut 10, il y en eut 20, 30, et cela dans différents quartiers. Un habitant des provinces autrichiennes, venu pour quelques jours à Venise en partie de plaisir, mourut en rentrant dans sa petite ville d'une mort sur laquelle il n'y avait pas à se tromper. Et c'est ainsi que les premiers bruits de l'épidémie qui avait éclaté dans la cité des Lagunes parvinrent aux journaux allemands. Il semblait que l'on assista à une recrudescence du fléau et que les miasmes redoublassent de ténacité et de virulence. Les cas de guérison étaient rares. 80% de ceux qui étaient touchés mouraient d'une mort horrible. Car le mal se montrait d'une violence extrême, et nombreuses étaient les apparitions de sa forme la plus dangereuse, celle que l'on nomme la forme sèche. Dans ce cas, le corps était impuissant à évacuer les sérosités que les vaisseaux sanguins laissaient filtrer en masse. En quelques heures, le malade se desséchait, et son sang devenu poisseux l'étouffait. Il agonisait dans les convulsions et les râles. Mort à Venise de Thomas Mann, cet extrait sur une musique de malheur évidemment. Thomas Astermaier, qu'est-ce qui dans ce texte a su parler à l'homme, à l'européen, à l'allemand, à l'enfant du monde que vous êtes ?
L'intérêt pour moi de faire ce texte, de monter sur scène ce texte, était cette question sur l'art, sur la question de la créativité, sur la peur de mourir, de avant mourir, perdre toutes ses capacités d'être créatif, d'être un artiste, la fin d'être artiste ou d'être créatif.
Sur un monde crépusculaire
dans
aussi.
Dans un monde qui est le monde de nationalisme à l'extrême à l'époque, qui était à la fin la Première Guerre mondiale.
Vous êtes beaucoup mobilisé contre la montée des nationalismes justement. Ce regain de popularité, de ces idées, y compris en Allemagne d'ailleurs, mais pas seulement. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ?
J'ai fait toute une mise en scène sur cette question avec le livre de Didier Héribon, qui, à mon avis, explique toute la complexité de cette question avec une analyse très profonde, Retour à Reims. Brièvement dit, ça a beaucoup à voir avec l'échec de la gauche, des partis social-démocrates, des partis socialistes, en Europe, qui ont oublié leur mission historique, qui est la mission de se battre pour les gens non privilégiés.
Et cette gauche, elle pourrait revenir ?
J'espère bien, sinon je vais me suicider.
Allons donc, évitez, il y a quelques pièces de théâtre à faire avant. Mais surtout, quels moyens est-ce qu'on dispose pour combattre ces idées, Thomas, qui évoquent immédiatement les heures les plus sombres de l'histoire européenne ?
Il faut s'attaquer sur scène dans ce que je monte. Alors, la plus grande partie des pièces que je monte depuis un certain moment traite ce sujet. Je suis en train de préparer une mise en scène pour le Festival de Salzbourg, qui est un livre de Udon von Horvath, Jeunesse sans Dieu. Alors, c'est à 36 qu'il a écrit et ça raconte l'histoire d'une jeunesse qui se prépare pour la Deuxième Guerre mondiale, une jeunesse très violente, très militante, sans Dieu, sans émotion. Et aussi, à ce moment-là, il ne suffit pas d'être juste ou seulement artiste, il faut être dans la rue, il faut être activiste, il faut aller sur les manifestations, il faut mobiliser les gens.
Vous y allez, vous ?
Oui, bien évidemment.
Y compris sur scène ?
Ouais, si vous voulez, d'une certaine façon, peut-être, oui. J'espère.
Vous mentionnez Odom von Horvath, et je pense à une autre pièce que vous avez récemment mise en scène, de ce même auteur, qui s'appelle La Nuit Italienne. En quoi cette pièce, écrite en 1930, justement, entre-t-elle en écho avec aujourd'hui ?
La pièce décrit une situation historique en Allemagne qui était un peu différente en France en même temps, parce qu'en France il y avait le Front Populaire contre la montée d'une extrême droite. En Allemagne il y avait une lutte entre les communistes et les socialistes face à la montée du fascisme. Et à ce moment, c'était un des grands erreurs historiques dans l'histoire de la gauche en Allemagne. Ils ont décidé de ne pas se allier contre les fascistes. Les social-démocrates disaient ça et les communistes disaient on va pas se mettre en coalition. Et moi, je pense que dans une situation pareille, historique, il faut une coalition, il faut une grande alliance contre cette menace.
Ce spectre des années 30, Thomas Ostermayer, dans quelle mesure est-ce qu'il vous hante, vous ?
Ah bah, dans cette mesure que, étant allemand, avec une famille où il y avait aussi les coupables. C'est pour moi une sorte de vouée que je donnais à ma vie personnelle, de faire tout ce que je suis capable de faire pour éviter à nouveau une monstruosité de cette façon.
Avec quelle image de votre pays est-ce que vous avez l'impression d'avoir été élevé? L'image d'un pays qui a contribué à instaurer la paix en étant l'un des pionniers de la construction européenne ou au contraire celui d'un pays coupable, justement?
Plutôt d'un pays coupable, je viens de le dire, parce que je viens d'une famille coupable et cette mémoire de la famille était super importante. Mon père, il a toujours dit « moi, je suis devenu soldat pour défendre la démocratie ». Moi, j'ai eu du mal pendant toute mon enfance à y croire et à vraiment y croire que c'est ça, cette raison pour laquelle il est soldat, il est militaire. Alors, cette ambivalence m'a hanté pendant toute mon enfance, cette peur que... Il y a encore les traces de ce fascisme. Il y a encore les spectres sont encore vivants.
C'est possible de vivre en paix avec ces fantômes?
Ben, si vous demandez mon thérapeute, c'est ça ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas. On essaie de surmonter ça, mais non, je crois que. C'est aussi un moteur de mon travail, de me battre avec mes propres spectres.
On va en reparler, évidemment, et revenir juste après Barbara Göttingen, en 1967, chanson de la réconciliation, s'il en est. Vous êtes sur France Inter avec Thomas Ostermayer. Vous écoutez Boomerang à l'heure européenne.
Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben. Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch doch die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weit schlechter kennen. In puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen, ihr spielte auch ganz ohne Frage. Das Märchen unserer Kindertage, es war einmal ja vor Beginns in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Seine und doch den Wald nicht von Vincennes. Doch sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, das Silberbleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es, Lächeln ist gescheiter, es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich, die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen. Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a cette gravité, vous savez, cette superbe, un petit peu intimidante, qui lui donne l'air de l'héritier décontracté et sans couronne de dynastie, cheveux tirant sur le blanc, ramenés en arrière, regard bleu acier, mains puissantes qui n'ont pas peur de se salir, hein, avec son petit veston en velours. Ce matin, le metteur en scène allemand, Thomas Ostermayer, invité de ce dernier boomerang à l'heure européenne. Et vous nous recevez, je le disais, à la Schaubühne, l'un des théâtres les plus emblématiques de Berlin, que vous dirigez depuis 20 ans. Quelle est la raison d'être d'un lieu comme celui-ci ?
La raison d'être, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire ici, pourquoi on te donne à l'âge de 29 ans un des plus grands institutions du théâtre européen, j'ai répondu en trois mots, je veux un lieu qui est international, métropolitain et contemporain. Alors, l'idée d'un théâtre national était l'idée fondateur du théâtre allemand. Au moment où il y avait la Révolution française en France, il n'y avait rien en Allemagne, mais il y avait un grand désir de faire pareil comme les Français, mais on était trop lâches pour y arriver. Mais ils ont essayé de faire révolution sur scène, de unifier les différents petits royaumes allemands avec la langue allemande. Alors, c'était ça l'idée fondateur du théâtre allemand, un théâtre national qui rassemble les 360 petits royaumes qui étaient allemands ou de la langage allemand à l'époque. Et moi, je voulais absolument faire le contraire. Je voulais pas du tout un théâtre national, un théâtre allemand. Je voulais un théâtre international avec des auteurs européens, avec des auteurs surtout de la langue britannique, de la langue anglaise, mais aussi des Russes, aussi des autres. Et je voulais toujours qu'on donne avec ce théâtre une vision internationalista.
Quelle importance le théâtre occupe-t-il dans la culture allemande ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ici, et pas seulement à Berlin d'ailleurs, il est plus soutenu, plus valorisé, plus dynamique qu'ailleurs en Europe ?
Oui, parce que il y a cette raison historique. À la fin du XVIIe siècle, les Allemands ont fait révolution dans l'art, mais pas dans la politique. Et parce que à ce moment, il y avait 360 petits royaumes, existe encore beaucoup de petits théâtres partout en Allemagne, et chaque théâtre est un peu le lieu représentatif de cette communauté bourgeoise. Ils sont fiers, peut-être plus encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 20 ans, chaque petite ville était très fière d'avoir son théâtre à eux, avec un ensemble en permanence, avec des acteurs. C'était, si vous voulez, un sorte de remplacement de l'église après le siècle de Lumière. C'était l'église de la bourgeoisie.
Vous y alliez beaucoup, vous, au théâtre, quand vous étiez petit ?
Pas du tout. Je détestais le théâtre. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, tiens, il faut mieux faire.
Mais vous n'avez pas mieux fait, vous en avez fait.
Non, je me suis dit, c'est poussiéreux, ringard, ça ne raconte rien, ça n'a rien à voir avec ma propre vie. Alors, je me suis dit, il faut changer le théâtre.
Vous avez passé une partie de votre enfance, je le disais, à Münsterlager, en Basse-Saxe, une ville connue pour sa base d'entraînement militaire. Votre père était militaire. À quoi ressemblait cette ville ?
Cette ville existait parce qu'il y avait la caserne. Et la caserne était avant la ville. C'était une caserne des Prussiens. C'était un des plus grands casernes allemands. Et parce que il y avait une caserne, petit à petit, il y avait une petite boulangerie, il y avait quelqu'un qui a vendu du lait. Alors, cette ville se développait grâce à la caserne.
Alors, quelles images, quels sons vous viennent immédiatement à l'esprit ?
Le son était les tanks et le bruit des canons.
Ça vous faisait peur ?
Au bout d'un moment, on s'est... On s'est habitué.
C'est intéressant, Thomas Ostermayer, parce qu'au fond, c'est comme si, pour l'enfant que vous étiez, la guerre était toujours apparue comme une hypothèse plausible par cette ville.
Pas seulement à cause des bruits, mais aussi à cause de mon père, parce que mon père, il parlait pendant tout le temps, il parlait de la guerre, de menaces des Russes, des Soviétiques. Et je me souviens très très bien... quand on a rendu visite à une part de notre famille qui habitait dans le Saar, proche de Saarbrücken, il y avait une dispute entre un parti de la famille et mon père. Et puis mon père disait, ouais, vous pouvez être calme parce que les Français ne laisseraient jamais les Russes traverser le Rhin.
C'est pour ça, Thomas Ostermayer, à votre avis, que votre théâtre est aussi une interrogation et une exploration de la violence ?
Peut-être, oui, mais moi, je ressens nos sociétés qui sont encore des sociétés violentes, même si c'est pas une violence physique, mais c'est une violence sociale. Et j'essaie beaucoup de parler de cette violence sociale. Et peut-être c'est pour ça que, au bout d'un moment, on voit cette violence sociale éclaté dans une violence physique dans l'action sur scène. Je crois que le spectacle que je fais après le livre de Édouard Louis,
L'histoire de la violence,
est un très très bon exemple de cette théorie.
Quand je vous ai demandé de réfléchir à une voix qui incarnerait quelque chose de l'Europe, vous m'avez répondu celle de Bertolt Brecht, récitant en 1939 son poème « À ceux qui viendront après nous ». Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est quelqu'un qui était forcé, à cause des fascistes, de fuir son pays. Il est fui en Danemark. Il est arrivé, après Danemark, il est arrivé en Finlande. Après, il est parti dans le nord du Finlande. Il a traversé la douane à la Russie. Il est arrivé en Russie, à Moscou. Et de Moscou, il est allé aux États-Unis.
C'est une migration ?
Oui, c'est l'histoire d'un émigrant. Et moi, je pense qu'on oublie un peu trop dans la situation actuelle en Europe qu'on partage ce monde avec beaucoup des autres et qu'il faut se souvenir au moment où nous aussi, les Européens, étaient des réfugiés et nos vies étaient menacées par la guerre et par la violence d'une idéologie fasciste. Et alors, il y a un certain... devoir qu'on a hérité de l'histoire.
C'est ça que vous aimeriez leur dire à ceux qui viendront après nous, puisque c'est le titre de ce poème.
Oui, oui, c'est à la génération qui vient après nous qui se souvient.
On le récite ce poème alors, pour pas l'oublier.
Ok.
Vraiment, je vis en de sombres temps, un langage sans malice et signe de sottise. Un front lisse d'insensibilité. Celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits ? Celui qui là-bas traverse tranquillement la rue n'est-il donc plus accessible à ses amis qui sont dans la détresse ? C'est vrai, je gagne encore de quoi vivre. Mais croyez-moi, c'est pur hasard. Manger à ma faim, rien de ce que je fais ne m'en donne le droit. Par hasard, je suis épargné, que ma chance me quitte et je suis perdu. On me dit « mange-toi et bois, sois heureux d'avoir ce que tu as ». Mais comment puis-je manger et boire alors que j'enlève ce que je mange à l'affamé, que mon verre d'eau manque à celui qui meurt de soif, et pourtant je mange et je bois. J'aimerais aussi être un sage. Dans les livres anciens, il est dit ce qu'est la sagesse, se tenir à l'écart des querelles du monde et sans crainte passer son peu de temps sur terre, aller son chemin sans violence, rendre le bien pour le mal, ne pas satisfaire ses désirs mais les oublier, être aussi tenu pour sage. Tout cela m'est impossible. Vraiment, je vis en de sombres temps. » Vraiment, je vis en de sombres temps. Vous partagez ça?
Je crois, oui, oui. Pas si sombre qu'à l'époque, mais on s'approche.
Merci infiniment, Thomas Ostermayer, de nous avoir reçus ici, à la Schaubühne à Berlin. Et merci à toute l'équipe de Boomerang, plus europhile que jamais. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Paul Guillotte et Jean-Baptiste Audibert. À lundi, les amis.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Parfois est trop petit, peur que ma chance me quitte.